I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un portail soudé sur la route en guise de barrage. Seuls les véhicules prioritaires peuvent passer. Image symbolique d'une crise qui s'enlise à Mayotte.
Des barrages sur les routes pendant plusieurs semaines, des manifestations sporadiques, des habitants à bout de nerfs. Mayotte a connu un début d'année 2024 éruptif. Insécurité, insalubrité, manque d'infrastructures. Mayotte, au nord-ouest de Madagascar, n'a rien d'un paradis pour les touristes. Pour les Mahorais, elle aurait même un petit goût d'enfer sur terre. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible dès 17h sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Donc nous, on ne veut plus des promesses, on veut des actions concrètes à l'instant présent et au moment où on se parle, des actions immédiates. Chaque jour qui passe, il y a des Maoris qui meurent, il y a des gens qui meurent ici. Pour toute cette délinquance, ces violences, donc on en a marre, on veut des actions concrètes, maintenant et tout de suite. On ne veut plus de promesses.
La colère d'un manifestant place de la République à Mamoudzou, chef-lieu du département de Mayotte, c'était sur Mayotte la première. Derrière lui, plusieurs membres des forces de l'ordre en position de repos, mais les casques et les boucliers sont bien visibles. Les manifestants attendent de pied ferme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accompagné de Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer. Il devait présenter ce jour-là un nouveau plan en réponse à la montée de l'insécurité sur l'île dans un contexte de crise migratoire. Dans leur bagage, plusieurs annonces, dont la fin du droit du sol et celle des titres de séjour territorialisés. Une réponse forte de la part de l'État pour une île en urgence permanente. C'est d'ailleurs le titre de l'enquête que vient de publier Grégoire Poussielgue pour Les Échos. Bonjour Grégoire.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service politique des Échos. Vous étiez il y a quelques jours à Mayotte, le 101e département français. Vous avez suivi la ministre Marie Guévenoux. C'est un département pas comme les autres en France.
C'est clairement un département à part, à 8000 km de Paris. L'archipel des Comores, auquel appartient Mayotte, est devenu indépendant en 1975. Mais Mayotte, par un référendum qui a eu lieu en 1976, à une écrasante majorité de plus de 90%, a préféré rester française. Et plus près de nous, en 2011, l'île est devenue effectivement le 101e département de la France, avec également les compétences d'une région. Mais c'est un département qui souffre d'énormes retards, que ce soit dans les domaines sociaux, économiques, sans parler de la situation sécuritaire et bien sûr de l'immigration.
Et en préparant cette émission, j'ai lu avec intérêt une chronique dans Les Échos de Pascal Perry, économiste et géographe. Il rappelait notamment que Mayotte est française depuis plus longtemps que le comté de Nice ou le duché de Savoie. C'était en 1860, 19 ans plus tôt, en 1841, le 25 avril, Mayotte devient un protectorat français. Le commandant Passot signe en effet ce jour-là un acte de rattachement volontaire de Mayotte à la France, avec le sultan d'origine malgache, Andrian Tsouli. Il l'avait fait pour se protéger des attaques extérieures, notamment comoriennes. Et Pascal Perry écrit aussi ceci. Autrefois paisible, l'île de Mayotte est désormais victime de son attractivité, au milieu d'un environnement très pauvre. Elle est passée de 250 000 à 400 000 habitants, dont une moitié de Comoriens, en situation irrégulière. Vous le disiez, Grégoire, Mayotte est à plus de 8000 km en avion de Paris et à plus de 1400 km de La Réunion. Officiellement, l'île compte plus de 310 000 habitants, c'est selon l'INSEE, et la population pourrait atteindre toujours, selon l'INSEE, entre 440 000 et 760 000 personnes en 2050, une démographie galopante. Pour quelle raison ?
Il faut déjà savoir que les statistiques sur la population sont assez floues. Le dernier recensement officiel date de 2012. Donc effectivement, on compte à Mayotte un peu plus de 300 000 habitants. Mais certains experts estiment qu'en fait, on est plus proche des 400 000 habitants. Alors la raison est double. Il y a d'abord une moyenne de 4 enfants par femme à Mayotte. Mais c'est surtout, et c'est le plus important, la pression migratoire qui explique cette hausse très importante du nombre d'habitants. Mayotte est soumise à un flux migratoire très important en provenance des Comores, dont l'île principale, Anjouan, est à peu près à 70 km de Mayotte. Et donc les bateaux traditionnels des pêcheurs, qu'on appelle les Kwassa Kwassa, sont utilisés aujourd'hui depuis les Comores pour transporter des dizaines de migrants qui arrivent à Mayotte tous les jours.
4 enfants par femme à Mayotte, hein, par comparaison, c'est plus du double de la moyenne nationale, aujourd'hui autour de 1,8 en France. En 60 ans, le nombre d'habitants a été multiplié par 12. Vous parliez des flux migratoires sur l'île, la moitié de la population est étrangère. Comment expliquer d'ailleurs cette pression migratoire à Mayotte ?
C'est d'abord les habitants des Comores, un archipel d'îles auquel appartenait Mayotte avant, notamment les femmes des Comores qui viennent accoucher pour que leurs enfants à naître aient la nationalité française en vertu du droit du sol. Donc ce droit du sol, il a été restreint en 2018, avec notamment une condition de résidence pour les parents. Et cette fois-ci, le gouvernement français propose de supprimer le droit du sol sur l'île. En fait, c'est une mesure qu'il qualifie lui-même d'exceptionnelle, mais pour répondre à une crise exceptionnelle, comme l'expliquait Marie Guévenoux, qui s'est rendue à 3 reprises déjà à Mayotte. Elle espère en effet que la fin du droit du sol va dissuader les Comoriens de venir à Mayotte. C'est pas certain, parce que beaucoup viennent aussi pour des raisons économiques, tout simplement, pour avoir une meilleure vie à Mayotte, parce que les Comores sont en état très pauvre. Il faut savoir que presque un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté ou est en insécurité alimentaire. Ça, ce sont des données de la Banque mondiale. S'il faut donner un seul chiffre, c'est peut-être celui-là. Il naît chaque année à Mayotte 10 000 bébés, ce qui fait de Mamoudzou, la capitale de l'île, la maternité la plus importante de France. Et 75% de ces enfants, c'est-à-dire plus de 7 500 bébés, ont une mère étrangère et le plus souvent sans papier, qui vient des Comores.
Alors qu'Achata n'a toujours pas accouché, dans la chambre voisine, une mère comorienne met son enfant au monde. Sikinati est aide-soignante, témoin d'une maternité submergée par les naissances. L'an dernier, près de 10 000 enfants ont vu le jour ici. Dans ces couloirs, les accouchements s'enchaînent à un rythme effréné.
Un extrait d'un documentaire du magazine de la Santé sur France TV, Immersion dans la plus grande maternité de France. Un reportage éclairant sur les conditions de travail aussi du personnel de cette maternité. Les conditions de vie dans les Comores, pays classé 150e sur 184 en termes d'indice de développement humain en 2021, peuvent pousser aussi ces femmes à vouloir accoucher à Mayotte. Mais il n'y a pas que cette immigration comorienne. Vous évoquez aussi dans votre enquête pour les Échos une déstabilisation venue de la Russie ?
Oui, on sait que la Russie vise à remplacer l'influence de la France. C'est évidemment valable en Afrique de l'Ouest, mais c'est aussi le cas à Mayotte. Concrètement, la France accuse la Russie d'alimenter ses arrivées de migrants pour déstabiliser Mayotte, notamment en fournissant des moteurs pour les bateaux, les fameux Kwassa Kwassa. Et selon la délégation parlementaire au renseignement, qui réunit députés et sénateurs, la Russie soutient les Comores qui revendiquent encore la propriété de Mayotte, même 50 ans après le référendum sur l'indépendance.
Une manifestation du mouvement Force Vive de Mayotte début février contre l'insécurité et l'immigration. C'était sur TV5 Monde. Le début d'année, on l'a dit, a été marqué par des mouvements de blocage de la part d'une partie de la population excédée. Quelle était l'ambiance quand vous y étiez ?
Elle était encore tendue. Les nouvelles tendances en fait à Mayotte, c'est que l'immigration n'est plus seule faite des Comoriens. À Mayotte, il y a des migrants qui viennent d'Afrique centrale comme de la République démocratique du Congo, d'Afrique de l'Est comme de la Somalie ou du Burundi, et qui passent par les Comores pour atteindre Mayotte. Et au début de l'année, il y a eu 1000 de ces migrants africains qui se sont installés sur le stade principal de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Les habitants ont protesté et pour interpeller le gouvernement, ils ont bloqué l'île. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des barrages sur toute l'île. On a compté jusqu'à une trentaine de barrages qui, pendant plusieurs semaines, ont totalement paralysé Mayotte, l'activité économique notamment. Et donc, pour sortir de cette crise très, très aiguë, le gouvernement a dû sortir une nouvelle fois un plan de développement et annoncer la fin du droit du sol. La situation reste tendue. D'abord parce qu'il reste des migrants autour du stade, il en reste entre 200 et 300, et que la question du relogement de ceux qui sont restés reste entière. Et beaucoup de gens que j'ai vus à Mayotte estiment qu'en fait la situation peut dégénérer à n'importe quand.
L'ambiance est calme, habitants et collectifs restent de l'autre côté des barrières. Les réfugiés rassemblés sur la pelouse sortent du camp au compte-goutte et déposent les restes de leur tente dans des bennes. Après plus de 3 heures d'opération, le nouveau préfet, François-Xavier Bieuville, fait le bilan.
Écoutez, on va faire partir un peu plus de 300 personnes qui sont attendues pour être hébergées avant de repartir sur un vol qui a été programmé à cet effet.
Et d'ailleurs, un fin février, l'État a démantelé le camp installé à proximité du stade de Cavani, comme on l'entend ici sur la chaîne Mayotte la Première. 300 personnes ont notamment été prises en charge en vue de leur faire quitter le territoire. Ce sont quand même des opérations compliquées, aussi loin de Paris.
C'est très compliqué et ça génère une situation de blocage qui a des conséquences sur l'habitat et aussi sur la sécurité. Parce que l'insécurité est un mal endémique à Mayotte. Elle est le fait de bandes de jeunes, souvent mineurs de 14, 15, 16 ans, qui sont maorais ou qui ne le sont pas, et qui terrorisent littéralement la population. Toutes les statistiques de sécurité qui concernent Mayotte sont beaucoup plus élevées que dans l'Hexagone, que ce soit les vols à l'arraché, les agressions, les cambriolages. On voit même des bus scolaires qui sont régulièrement attaqués à coups de pierre, ainsi que des établissements scolaires comme les collèges. À Mayotte, il faut savoir qu'il est fortement déconseillé de sortir une fois que la nuit est tombée.
L'insécurité chronique à des niveaux qu'on n'imagine pas forcément. Le taux de cambriolage est 4 fois supérieur à celui de l'Hexagone, c'est ce que vous écrivez. Une personne sur 2 se dit souvent ou de temps en temps en insécurité. Et le 10 avril, un record a été battu. L'attaque de 18 bus scolaires le même jour, selon l'opérateur Transdev. Depuis le 19 mars, 35 vitres brisées et 17 élèves ont été blessés. Ce chiffre englobe à la fois les blessures et les malaises, peut-on lire sur le site de Mayotte, la première. Quelques jours plus tôt, sur la RN1, ce sont les forces de l'ordre qui ont été attaquées en pleine nuit par des hordes de jeunes. C'est impressionnant.
Ouais, la RN1, c'est la grande route qui fait tout le tour de l'île. Et régulièrement, en fait, les voitures sont arrêtées, sont détroussées littéralement. Et même les policiers n'échappent pas à cette insécurité. Donc, ce qui s'est passé le 1er avril, c'est qu'ils ont été attaqués à coups de pierre et ils ont mis plus de 2 heures pour se dégager à coups de lacrymogène et de LBD.
Vous êtes rendu dans le quartier de Kaweni, c'est au nord-est de l'île, en banlieue de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. C'est le symbole finalement de toutes les difficultés rencontrées par Mayotte.
Oui, parce que plus on monte dans Kaweni, plus on trouve des bidonvilles installées dans une anarchie totale. C'est-à-dire que les cabanes s'installent dans la forêt, parfois sur les terrains en pente de 50%, sans eau, sans électricité. Ils grignotent littéralement sur la montagne, qui déforeste au passage. Ces bidonvilles sont partout sur l'île, pas seulement à Kaweni. Évidemment, ils posent de graves problèmes de santé, de salubrité et d'ordre public. À Mayotte, il faut savoir qu'un habitant sur 3, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes, habite dans un banga, c'est-à-dire le nom de ces baraques en tôle.
C'est le plus grand bidonville de France, c'est ça?
C'est ce qui se dit. Il y a même qui m'ont dit que c'était le plus grand bidonville d'Europe.
Comment la municipalité s'attaque-t-elle à cette urbanisation anarchique?
Elle tente de reprendre le contrôle, mais c'est très compliqué. D'abord, il faut identifier ces habitants des bangas. Et ensuite, elle a toute une politique de construction d'habitats sociaux, à des loyers évidemment très très modérés, mais la pression est énorme. Et en fait, les municipalités doivent aussi répondre aux questions d'insécurité en reprenant le contrôle sur des zones de non-droit, qui sont des friches ou des choses comme ça.
De l'insécurité, du mal logement, de l'insalubrité. Dans ces conditions, comment se porte l'économie de l'île?
Elle ne se porte pas très bien, évidemment. À Mayotte, le taux de chômage est de 34%. L'économie est en fait sous perfusion de l'État français. Il n'y a quasiment pas d'activité économique. La pêche est en crise et le tourisme n'existe quasiment pas, compte tenu de l'insécurité et du manque d'infrastructures.
Oui, parce qu'on peut se dire que c'est une île qui pourrait être paradisiaque, en fait.
Elle est paradisiaque, comme peut l'être la Réunion à un peu plus de 1000 km, mais le tourisme n'a jamais vraiment décollé à Mayotte.
Et selon les derniers chiffres du tourisme à Mayotte, 70% des visiteurs viennent de l'Hexagone et de l'île de la Réunion. En 2019, avant le Covid, l'île avait attiré 65 000 touristes, un record. Par comparaison, la Réunion en a attiré l'an dernier plus de 550 000 et l'île Maurice plus d'1 300 000.
C'est la plus importante sécheresse qu'ait connue Mayotte depuis 1997. Le niveau des retenues collinaires, qui fournissent l'essentiel de l'eau potable, n'a jamais été aussi bas à cette période. Une situation très préoccupante. Le préfet annonce des coupures renforcées dans les foyers, 2 jours sur 3, chaque semaine.
Alors, il n'y a pas que des problèmes d'insécurité, d'urbanisme avec ces bidonvilles sans eau ni électricité. Comme on vient de l'entendre sur France 24, il y a eu aussi ces derniers mois des problèmes d'approvisionnement en eau, Grégoire.
C'est un énorme problème. L'accès à l'eau est structurellement déficitaire à Mayotte. Il manque 6000 m3 par jour. Donc, le gouvernement là, a lancé des forages, mais ça prendra plusieurs années pour que l'accès à l'eau soit complet pour tout le monde. L'année dernière, il faut savoir qu'il y a eu une période de sécheresse et l'État français a été obligé d'installer un pont de bouteilles d'eau pour faire face à la pénurie. C'est-à-dire que des bouteilles d'eau ont été importées de Marseille par bateau. L'opération a duré plusieurs mois, 8 mois si je me souviens bien, et elle a coûté la bagatelle de 100 millions d'euros.
Le gouvernement a été interpellé à plusieurs reprises depuis des mois sur la situation dans ce département français. Quelle réponse apporte-t-il au malaise et à la colère d'une partie de la population ?
Il lance des plans. Il y a eu un plan lancé en 2015 sous François Hollande. Il y a eu un autre plan lancé en 2018 sous la présidence d'Emmanuel Macron. Mais en fait, ces plans sont annoncés avec force de communication, mais la Cour des comptes l'a relevé dans un rapport de juin 2022, c'est qu'il manque de suivi. Et surtout, ils n'ont pas assez de résultats sur place, malgré un coût très important, malgré des centaines de millions d'euros qui sont déversés. Et donc, cette année, le gouvernement prépare un nouveau plan, en plus de la fin du droit du sol, qui devrait permettre de développer Mayotte, mais c'est un projet de longue haleine qui prendra du temps à se mettre en place et à avoir des résultats.
Il y a aussi le plan PlaceNet pour s'attaquer à l'insécurité.
Oui, ça a été. Alors, PlaceNet, il y a une première opération qui s'appelle Wambushu, qui a été mise en place au printemps l'année dernière pour ce qu'ils appellent faire des opérations de décasage, c'est-à-dire enlever les cases illégales, les bangas, et arrêter les principaux chefs de bande. Donc, la première opération qui a eu lieu donc, au printemps 2023, qui a duré plusieurs mois, a eu des résultats mitigés. Elle n'a pas permis l'expulsion de plus de 100 papiers. Parce que tout simplement, les Comores, au début, ont bloqué l'accueil de leurs propres ressortissants. Et donc, cette année, le gouvernement a lancé une deuxième opération Wambushu, qu'il a baptisée PlaceNet, une nouvelle fois pour enlever les cases illégales et pour lutter contre l'insécurité. Il prévoit, il espère en tout cas, arrêter une soixantaine de chefs de bande et détruire 1300 cabanes. Il faut savoir qu'il y a eu 400 policiers et gendarmes qui ont été envoyés à Mayotte pour cette opération, qui va durer jusqu'au mois de juin.
D'abord, il faut montrer que Mayotte, c'est la République. Je pense que c'est ça le premier message. Et puis, le deuxième message, c'est que sur des opérations PlaceNet, ça apporte bien son nom. C'est-à-dire qu'on vise des publics extrêmement ciblés. On a déterminé 60 objectifs prioritaires, c'est-à-dire les 60 individus les plus dangereux se livrant au trafic les plus graves, qui sont visés par cette opération PlaceNet. Et puis, PlaceNet, ça veut dire aussi la destruction de l'habitat insalubre, des bidonvilles, pour être très clair, au nombre de 1300 qui sont visés par cette opération, donc 1300 habitats qui vont être détruits.
Marie Guévenoux, la nouvelle ministre des Outre-mer, invitée il y a un mois de Télématin sur France 2 en marge du lancement de l'opération qui va durer 11 semaines. Depuis sa nomination en février, elle s'est déjà rendue 3 fois sur l'île. 1700 membres de forces de l'ordre ont été mobilisés pour cette opération et l'État a débloqué une enveloppe de 5 millions d'euros pour reloger les personnes expulsées des bangas. Alors ça, c'est la partie maintien de l'ordre, mais le gouvernement a aussi fait une annonce forte. Le 22 mai prochain, le Conseil des ministres étudiera un projet de loi réformant la Constitution pour mettre fin au droit du sol dans ce département. Le débat s'annonce houleux dans l'Hexagone en raison de la symbolique de cette suppression. Mais comment a-t-elle été perçue localement, notamment par les élus ?
Elle est très très bien accueillie. C'est une demande quasiment unanime des élus de Mayotte. Parce qu'ils estiment que c'est la seule façon de réduire l'attractivité de l'île pour les Comoriens. Il faut savoir qu'à Mayotte, la parole des élus est assez débridée. Ils mettent en cause ouvertement les étrangers. Ils parlent d'un grand remplacement. Et l'année dernière, il y a même un élu vice-président du conseil départemental, donc la structure qui gère l'île, qui a appelé à tuer les délinquants. Il a été condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis. Donc les élus attendent beaucoup de l'État, notamment sur le développement de l'île et sur la fin du droit du sol. Mais il faut aussi voir que le gouvernement leur rappelle leurs obligations, notamment sur les ouvertures d'écoles, qui ne sont pas au rythme de croissance des enfants ou la gestion de l'eau. Les plans de forage qui ont été lancés par le gouvernement, en fait, auraient dû être faits par les élus il y a plusieurs années.
Des élus qui ont aussi sans doute leur part de responsabilité, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure.
Absolument.
Aussi dans la situation et le manque de développement de l'île. Est-ce que ces mesures peuvent être efficaces là aussi pour stopper ou en tout cas pour réduire l'immigration venue notamment des Comores?
C'est une grande question sur le papier, oui, parce qu'on peut se dire qu'un enfant qui naîtra à Mayotte de parents illégaux n'aura plus accès à la nationalité française, mais est-ce que ça dissuadera vraiment les femmes comoriennes de venir accoucher à Mayotte? Ça, c'est pas certain.
Oui, parce qu'elles peuvent y trouver, j'imagine, des meilleures conditions.
Conditions de santé, des meilleures conditions économiques, des proches qui pourront les accueillir.
Un dernier mot, Grégoire, à la lecture de votre enquête, on a un peu l'impression d'une crise insoluble. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'était assez désespérant. L'État doit être fort pour que Mayotte, alors c'est un peu fort ce que je vais dire, mais pour que Mayotte ne se transforme pas en Haïti.
Non, on ne peut pas dire que Mayotte est dans une situation comparable à celle d'Haïti. L'insécurité, elle est très forte à Mayotte, mais elle n'atteint pas évidemment le niveau qu'on voit à Haïti. Et surtout, l'État est encore présent à Mayotte. Il y a les services publics qui sont assurés, il y a beaucoup de policiers, il y a les administrations. Mais effectivement, résoudre les problèmes de Mayotte, que ce soit l'habitat, que ce soit l'insécurité, que ce soit la gestion des flux migratoires, que ce soit l'éducation et tous ces sujets, ce sera long et ce sera coûteux. Ça demandera un suivi à la fois très proche du gouvernement et une mobilisation des acteurs locaux, des élus locaux.
C'était un séjour marquant pour vous, Mayotte?
Ben oui, parce que évidemment, je m'étais beaucoup renseigné avant d'y aller, mais quand on est sur place, on se rend compte d'une extrême tension, d'une situation très très compliquée. Il y a un épisode qui m'a marqué, qui est très symbolique, qui est presque minime, mais j'étais en voiture et à un moment, une femme a frappé sur la voiture et nous a dit rapidement, on ne s'est pas arrêté, nous a dit « on souffre ici ». Et c'est tout.
Merci Grégoire Poussielgue du service politique des Échos. Je vous invite à lire son reportage « Mayotte, l'urgence permanente » sur le site des Échos. Je vous glisse le lien dans la description de cet épisode. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Et pour prolonger votre expérience et profiter de l'essentiel de l'actualité, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien dans la description.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.